départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labourouard. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à une date, le 17 novembre 1993, qui voit l'ailier bulgare Émile Kostadinov anéantir l'espoir de l'équipe de France d'accéder au Mondial de 1994 aux États-Unis. Un traumatisme. Le match de football France-Bulgarie s'est disputé le 17 novembre 1993 au Parc des Princes à Paris, comptant pour les éliminatoires du groupe 6 de la Coupe du Monde 1994. Avant la rencontre, la France devance la Bulgarie d'un point et n'a besoin que d'un match nul pour se qualifier. Battue à la dernière minute sur le score de 2-1, la France termine troisième de son groupe et est devancée par la Bulgarie et la Suède qui se qualifient pour la phase finale du Mondial. Cette défaite est considérée comme l'une des plus gros échecs sportifs de l'histoire du football français. Un mois auparavant, le 13 octobre 1993, la France s'incline 3-2 face à Israël, et cette défaite constitue déjà une énorme surprise. Avant le match, le champagne était au frigo, la sono du parc avait joué l'Amérique de Joe Dassin, et l'entraîneur Gérard Rouillet détaillait son plan de bataille pour les États-Unis. Le football français, mal loti depuis plusieurs mois, affaire Valenciennes-OM, rivalité chez les Bleus entre les joueurs du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille, fond de jeu et tactique de Gérard Rouillet très décrié, espère une qualification qui ferait le plus grand bien. L'équipe de France ayant raté l'Euro 1988, puis le Mondial précédent en 1990, et ayant été éliminée au premier tour de l'Euro 1992, est à la recherche de son football depuis des années. Platini, et a perdu sa place parmi les meilleures nations européennes. La France avait déjà perdu un match de barrage contre la Bulgarie, 1-0, pour l'accès au Mondial chilien de 1962. Mais l'avant-match est caractérisé par un contexte tendu au sein de l'équipe. Le samedi 13 novembre, comprenant qu'il ne sera pas titulaire, David Ginola critique ouvertement le sélectionneur national. La composition de l'équipe de France est la suivante. Gardien de but, Bernard Lama. Défenseur, Marcel Desailly, Alain Roche, Laurent Blanc, Emmanuel Petit. Milieu de terrain, Didier Deschamps, Paul Le Guen, Franck Sauzet, Reynald Pedros. Attaquant, Éric Cantona et Jean-Pierre Papin. Comme l'avait prévu le sélectionneur français, le match est fermé, tendu, haché. En ce début de match, la France hésite à prendre le jeu à son compte et ne joue pas vraiment pour gagner, mais plutôt pour ne pas perdre. Les Bulgares, quant à eux, tentent vainement d'ouvrir le score. À la 32e minute, c'est la délivrance. Deschamps récupère le ballon sur le côté droit et effectue une transversale vers Papin, qui remet de la tête pour Cantona, qui marque en force du droit à bout portant. Le plus dur semble fait, mais l'avantage ne dure que 5 minutes. À la 37e minute de jeu, Blanc rate sa relance et concède un corner. Kostadinov, au premier poteau, place une tête croisée qui finit sa course dans les buts de Bernard Lama. Étrangement, la France, au lieu d'essayer de marquer à nouveau, se crispe complètement et retombe dans ses travers en essayant avant tout de défendre, proposant un jeu médiocre techniquement. Papin est totalement mis sous silence par la défense adverse, notamment par Trifon Ivanov, et prétextant des crampes, est remplacé à la 68e minute par Ginola. La Bulgarie, quant à elle, tente le tout pour le tout. Les minutes passent et malgré un match plus que laborieux, les Bleus semblent se diriger vers une qualification. Mais tout bascule à la 90e minute. Coup franc à droite, presque au poteau de corner, tiré par Vincent Guérin, qui joue avec Ginola. Celui-ci prend l'initiative de centrer, mais ne trouve personne à la réception. La défense bulgare intercepte et amorce un contre, Penev lance Kostadinov sur l'aile droite, qui résiste à Roche et vient battre l'amas d'un tir puissant sous la barre, malgré un tacle désespéré de Laurent Blanc. Ce match aura condamné Gérard Houillet, le sélectionneur, qui lui-même condamnera David Ginola, l'auteur du dernier centre manqué qui avait mené à la contre-attaque fatale et au but de Émile Kostadinov. L'élimination des Bleus pointe du doigt les insuffisances du jeu prôné par Houillet, s'appuyant essentiellement sur un jeu physique, rugueux, défensif, mais peu inventif et peu porté vers l'attaque. Gérard Houillet annonce sa démission le 25 novembre 1993, en fin de matinée, lors d'une conférence de presse au siège de la Fédération française de football. Début décembre, Jacques Georges, président par intérim de la Fédération française de football, déclare que le futur sélectionneur sera nommé le 17 décembre et assurera un intérim. Le 17 décembre, Aimé Jacquet est nommé à l'unanimité sélectionneur-entraîneur de l'équipe de France de football par le Conseil fédéral de la Fédération française de football. L'équipe bâtie par Aimé Jacquet remportera la Coupe du Monde en France, 5 ans plus tard, en 1998, avec 7 joueurs ayant participé à France-Israël ou à France-Bulgarie. Bernard Lama, Vicente Lizarazu, Laurent Blanc, Marcel Desailly, Emmanuel Petit, Didier Deschamps et Youri Djorkaeff. Quant aux équipes de Suède et de Bulgarie, qui sortent donc de ce groupe de qualification devant la France, elles atteindront toutes les deux le stade des demi-finales de la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis. Que retenir? 3 coupables ou responsables ont payé leur faute de leur place à court et à moyen terme. De cette soirée, Gérard Houillet a toujours porté le fardeau. S'il avait cru, dans un premier temps, pouvoir en réchapper, insistant qu'il n'était pas du genre à abandonner le navire et qu'il comptait se remettre tout de suite au travail, l'évidence l'avait rattrapé assez rapidement. Toute sa vie, il a été ramené à cette soirée de novembre, même quand il était devenu un grand entraîneur de Liverpool, même quand il a été champion de France 2 fois de suite avec Lyon en 2006-2007, même quand il a été l'un des meilleurs directeurs techniques nationaux par son sens politique, son intelligence, sa connaissance des dossiers, sa vision et sa capacité de travail. Gérard Houillet est né le 3 septembre 1947 à Thérouanne, dans le Pas-de-Calais. Enseignant d'anglais, il s'engage avec le Paris Saint-Germain pour la saison 1985-1986. Dans la capitale, avec Francis Borrelli comme président, il décroche le premier titre de champion de France du club dès sa première saison, au terme de l'ultime journée. En 1998, 5 ans après le traumatisme de 1993, Gérard Houillet commence ses 6 années à la tête de Liverpool. Après avoir repéré Steven Gerrard, il réalise le quadruplé Coupe de l'UEFA, Cup, Ligue et Super Coupe d'Europe en 2001. La même année, il est sauvé de peu avec une première opération de l'aorte. En 2005, 1 an après avoir été écarté du club anglais, Gérard Houillet arrive à l'Olympique Lyonnais et remporte de nouveaux titres de champion en 2006 et 2007. Il démissionne après ce dernier. Il met finalement un terme à sa carrière d'entraîneur avec un passage sur le banc d'Aston Villa en 2010-2011, rattrapé par son problème de santé. Il a écrit un livre, « Je ne marcherai jamais seul », en référence à l'hymne et la devise du club de Liverpool, « You will never walk alone », »,« Tu ne marcheras jamais seul ». La chanson devient un symbole en 1989, après le mouvement de foule dans le stade de Hillsborough, qui avait coûté la vie à 96 personnes. Le « You'll never walk alone » est entonné pour commémorer la mémoire des victimes accusées à tort d'être responsables de la catastrophe. Selon Houillet, le vrai talent, c'est le rebond. Gérard Houillet décède le 14 décembre 2020 à son domicile de Boulogne-Billancourt à l'âge de 73 ans, quelques jours après avoir été hospitalisé pour une nouvelle opération à l'aorte. Rien dans la vie ne s'achève sans émotion, a dit l'actuel entraîneur de Liverpool, l'Allemand Jürgen Klopp. De son côté, David Ginola, l'auteur du centre raté, est responsable de l'autre moitié de l'affaire pour avoir lâché une bombe 3 jours plus tôt à Clairefontaine, égratignant Gérard Houillet, coupable d'accorder l'immunité perpétuelle à Jean-Pierre Papin et à Éric Cantona. David Ginola méritait tout autant de jouer. Mais pour houiller, Ginola a commis une faute grave contre l'équipe, en s'exprimant sur le groupe. David Ginola est né le 25 janvier 1967 à Gassin, dans le Var. À 18 ans, il commence son parcours de joueur professionnel au SC Toulon. Il arrive au Matra Racing avant d'intégrer le club breton de Brest-Armorique au début des années 1990. Remarqué par le Paris Saint-Germain, il signe avec le club en 1992. Sa carrière prend alors une nouvelle dimension. Avec le club parisien, il remporte le championnat de France 1994, deux Coupes de France 1993 et 1995, une Coupe de la Ligue 1995 et atteint les demi-finales de la Coupe d'Europe à trois reprises 1993, 1994 et 1995, notamment face au Real de Madrid qui lui vaut le surnom d'El Magnifico par la presse espagnole. À l'été 1995, David Ginola est tout proche de s'engager avec le Football Club de Barcelone, entraîné par son idole, Johan Cruyff. Mais cela se passe quelques mois avant l'arrêt Bosman. Ginola a dit « Il fallait attendre de faire partir de Barcelone Stoïkov, la star bulgare, et Agi, la star roumaine, et le PSG s'impatientait de ma réponse. Tout était réglé ou presque, mais Cruyff n'a jamais réussi à transférer ces deux joueurs. Mon transfert ne s'est pas fait. » Et ça a été difficile à digérer. Ginola signe dans un club moins huppé, mais ambitieux de Newcastle, en Angleterre, contre 3,8 millions d'euros. David Ginola poursuit donc sa carrière en Angleterre, où il joue notamment avec Newcastle de 1995 à 1997 et Tottenham 1997-2000. L'ancien joueur annonce ensuite sa reconversion et amorce sa reconversion au cinéma, en prenant des cours d'art dramatique à la Royal Academy of Dramatic Art à Londres. Depuis 2022, Ginola s'est reconverti dans l'animation et la télévision. Pour finir, focus sur le président de la Fédération française de football de l'époque, Jean Fournet-Fayard. Né en 1931 à Lyon, bon gestionnaire, cadre dans une entreprise pharmaceutique. Il est président de la Fédération française de football depuis 1985. Il a fini par démissionner le 29 novembre 1993, après une fin de mandat extrêmement pénible. Il aura vécu le drame de Furiani en 1992, ses 18 morts et ses 2000 blessés, après l'effondrement d'une tribune provisoire avant une demi-finale de Coupe de France, Bastia-OM, puis l'affaire Valenciennes-OM au printemps 1993, qui avait jeté un voile sur le championnat de France et révélé les pratiques de Bernard Tapie et du club dominant, et enfin cette élimination. Cela faisait beaucoup trop pour un président qui décédera en 2020.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.